Vous êtes bien à l'écoute de RFI, les 9h30 à Kinshasa, 8h30 à Bamako.
Charlotte de Rouen.
Les lauréats de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été dévoilés hier à Cotonou. La journaliste congolaise Victoire Andrène Ombi et le technicien ivoirien Daouda Konaté ont été désignés. La Mauritanie enregistre une hausse significative du nombre de migrants sur la route de l'exil. Face à cette situation, Nouakchott veut coopérer davantage avec l'Espagne. L'homosexualité criminalisée au Mali, le Conseil national de la transition a adopté une loi en fin de semaine à ce sujet. Et puis à Maurice, face au tollé provoqué par la coupure des réseaux sociaux lors de la campagne électorale, le gouvernement a finalement fait marche arrière. Les ONG de défense des droits de l'homme ont dénoncé une atteinte aux droits fondamentaux des citoyens. Victoire Andrène Ombi et Daouda Konaté, lauréats de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, qui récompensent chaque année un journaliste et un technicien de reportage. Une bourse en hommage à nos collègues décédés, assassinés dans le nord du Mali il y a 11 ans. Le nom des deux lauréats a été dévoilé au cours d'une cérémonie officielle hier soir à Cotonou. Reportage de Jean-Luc Aplogan.
Le nom des deux lauréats est dévoilé dans une ambiance de proclamation des résultats très attendus.
Daouda Konaté. Victoire Andrène.
Daouda, le technicien, avait envie d'un reportage sur les forgerons. Finalement, il choisit les tisserands d'Aboumé. Il a livré une photographie sonore mélodieuse et parfaite qui a séduit les 8 membres du jury. Il confesse qu'une telle réalisation nécessite une technique.
C'est pas le bruit fort qui compte, mais comment gérer le bruit. Quand on tire les fils et quand on commence à tisser les sons que ça donne, paclo, paclo, paclo. Et là, c'est sur ça que je me suis concentré.
Quant à Victoire, elle a proposé au jury un tournage sur la danse comme thérapie. L'originalité du sujet, sa maîtrise, la qualité des témoignages ont valu à cette passionnée de danse la reconnaissance du jury. Victoire Ombi confie.
On a tendance à dire aux Africains d'être forts. L'Africain ne peut pas pleurer, exprimer ses émotions. Et j'ai dit, mais comment les gens peuvent arriver à exprimer leurs sentiments, leurs émotions? J'ai donc pensé à la danse. Et c'est comme ça que j'ai choisi ce sujet.
La première partie de la cérémonie a été une séquence hommage pour Claude et Ghislaine, avec des mots et des phrases fortes. Deux professionnels exemplaires, courageux, rigoureux et militants de la vérité, ont résumé les orateurs. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Et les deux lauréats se voient offrir un mois de formation à Paris début 2025. Le flux de migrants présents sur le sol mauritanien a atteint un seuil critique. La détérioration du contexte sécuritaire dans la région entraîne une intensification des flux de migrants irréguliers qui traversent la Mauritanie vers l'Espagne. C'est donc ce message qu'a voulu faire passer en début de semaine le ministre mauritanien de la Défense à son homologue espagnol lors de son passage à Nouakchott. Des sources humanitaires indiquent que la Mauritanie connaît un afflux régulier de migrants depuis bientôt un an. Elle accueille également des dizaines de milliers de réfugiés en provenance du Mali. Magali Lagrange.
La Mauritanie reste un pays de transit pour de nombreux ressortissants d'Afrique de l'Ouest, avec cette année une hausse significative du nombre de migrants qui cherchent à emprunter la route de l'Atlantique pour rallier les Canaries, des départs qui se font aussi du Sénégal ou de Gambie, par exemple. Le nombre de débarquements en Mauritanie a doublé entre 2023 et 2024. Mi-octobre, l'archipel espagnol avait enregistré plus de 33 000 arrivées par la mer, contre 23 000 sur la même période l'an dernier. Face à cette situation, Nouakchott souhaite coopérer davantage avec les Espagne et l'Europe en général, affirme le ministre mauritanien de la Défense. En mars, une déclaration conjointe a été signée entre la Mauritanie et l'Union européenne pour renforcer le partenariat sur les migrations. La Mauritanie est par ailleurs une terre d'asile pour de nombreux réfugiés. Ce ne sont pas des migrants, précise une source humanitaire. Le HCR recense 275 000 réfugiés et demandeurs d'asile dans le pays. La région du Haut-Charguy, à la frontière avec le Mali, dans l'Est, accueille des réfugiés maliens en grande partie qui fuient la situation humanitaire et sécuritaire dans leur pays. Le camp de Mbeira est saturé. Les nouveaux arrivants s'installent désormais à l'extérieur.
RFI, 8h34 à Bamako, au Mali. Une loi criminalisant l'homosexualité a été adoptée par le Conseil national de la transition, le CNT, qui tient lieu d'organe législatif, a adopté cette disposition jeudi. Serge Daniel.
Les projets de code pénal et le code de procédure pénale où figure la pénalisation de l'homosexualité au Mali ont été adoptés par les membres du Conseil national de transition à 132 voix pour et une contre. Commentant la nouvelle, le ministre malien de la Justice a affirmé devant la presse, je cite, « Nous n'accepterons pas que nos coutumes et nos valeurs soient violées par des personnes venues d'ailleurs ». Fin de citation. Dans ses propos, le ministre Mamadou Kassogué s'est voulu plus précis, je cite encore, « Toute personne s'adonnant à la pratique de l'homosexualité en faisant sa promotion ou son apologie sera poursuivie ». Fin de citation. La presse n'avait pas pu ce samedi se procurer le nouveau code pénal dans lequel figure cette interdiction de l'homosexualité sur le territoire national. Les détails exacts des peines ne sont donc pas encore connus. Selon une très bonne source judiciaire malienne, en réalité, juridiquement, dans le nouveau code pénal, l'homosexualité n'est pas encore érigée en infraction autonome. La raison est simple, poursuit notre interlocuteur, le Mali n'est pas encore sorti des différents traités et pactes qui protègent les droits civiques.
En Guinée, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, s'élève au rang de général d'armée pour la deuxième fois cette année. Le chef de la junte s'est auto-promu par un décret présidentiel rendu public vendredi soir. Une quinzaine de membres de la junte et de l'armée ont également été élevés au grade de général. Après deux prolongations au Tchad, les candidats aux élections législatives et locales ont jusqu'à ce soir minuit pour déposer leur dossier de candidature. Mais ces scrutins suscitent peu d'engouement, en cause notamment le montant de la caution par candidat, 3 600 000 francs CFA, alors que la subvention au parti récemment débloquée par le président s'élève à 3 millions. Les candidatures indépendantes sont interdites et le parti des transformateurs de l'opposant Succès Masra a choisi de boycotter ces scrutins.
RFI.
C'est une première étape, mais ce n'est pas assez pour les proches des tirailleurs sénégalais. Vendredi, une cérémonie a eu lieu à Morlaix, dans l'ouest de la France, en hommage aux tirailleurs de Tiaroy. En décembre 1944, ces soldats africains démobilisés de retour du front réclament leur solde. Le mouvement est durement réprimé. Les tirailleurs massacrés par l'armée française, ces hommes avaient embarqué dans le port de Morlaix. C'est donc là qu'a eu lieu un hommage, hier, pour la première fois. Pour Karfa Diallo, fils d'ancien combattant et fondateur de Mémoire et Partage, il faut aller plus loin.
Il s'agit pour nous de d'abord demander à la représentation nationale française une reconnaissance officielle du massacre perpétré à Tiaroy par une résolution votée à l'Assemblée. Nous demandons aussi, et c'est important, la création d'une commission d'enquête parlementaire pour faire vraiment toute la lumière sur le drame, parce que il y a encore beaucoup de points d'ombre, notamment sur le nombre de tirailleurs qui ont été effectivement victimes. Officiellement, on est passé de 35, donc au tout début, à 70 maintenant. Certains historiens affirment qu'il y en a plus de 300. On ne sait pas exactement où les corps de ces tirailleurs ont été enterrés. Ensuite, nous demandons des excuses formelles. Il s'agit d'une tragédie extrêmement traumatisante pour des générations et des générations d'Africaines et d'Africains, mais aussi de la diaspora. Une tragédie qui, il nous semble, nécessite une forme de reconnaissance, mais surtout d'excuses formelles.
Des propos recueillis par Wely Diallo. À Maurice, la décision a suscité une levée de boucliers. Les autorités avaient décidé vendredi de couper les réseaux sociaux en pleine campagne électorale. Cette mesure devait initialement durer jusqu'au 11 novembre, au lendemain des élections législatives. Mais face aux nombreuses protestations, le gouvernement a finalement fait marche arrière. Abdoulaye Rally.
Le gouvernement mauricien invoque des raisons de sécurité pour justifier le blocage des réseaux sociaux, mais la population y voit une manœuvre politique intervenue, qui plus est, en pleine campagne électorale. Laura Jaimangal, directrice de Transparency Mauritius, regrette une atteinte aux droits des citoyens.
Les radios privées ont utilisé les réseaux sociaux pour faire des débats entre les candidats, donc ça aide la population à faire un choix éclairé de qui vont aller voter et venir leur enlever ça soudainement. C'est un peu venir affecter le droit civique.
Prévu jusqu'au 11 novembre, la censure a été levée hier après-midi. Jean-Luc Moutoussamy, directeur de Média Expertise, salue la retenue exemplaire de la population mauricienne.
Il a fallu un peu plus de 24 heures pour que la décision soit changée. Au final, la leçon que les Mauriciens en tirent, ils peuvent faire les choses dans la paix. Et maintenant, les élections arrivent et nous verrons quelle sera l'issue de ce scrutin.
Pour de nombreux observateurs, le gouvernement sortant a commis une erreur majeure qui pourrait peser lourd dans les urnes le 10 novembre. Abdullah Erali, pour lui, RFI.
Restez avec nous sur RFI, 9h40 ici à Paris.